Nous sommes avec Jérémy Cavé, donc vous êtes chercheur à l'Institut de recherche et développement IRD en sciences de la soutenabilité et chargé de recherche en sciences de la soutenabilité au GET, donc c'est Géosciences Environnement Toulouse.
Tout à fait.
Vous êtes l'un des nombreux organisateurs du colloque Inter-Atécopole. Donc, réparer le futur, réflexion et expérience depuis l'écologie politique qui se tient donc depuis hier et jusqu'à demain à Sciences Po à Toulouse. D'abord, juste une petite question, c'est par rapport à votre domaine. Qu'est-ce que c'est que la soutenabilité ?
La soutenabilité, c'est tout simplement un synonyme du mot durabilité. Qui vient de l'anglais où on parle souvent de sustainability, c'est-à-dire ce qu'un écosystème est capable de soutenir comme forme de vie ou comme mode de développement, on va dire. Ce domaine de recherche, il est émergent et il essaye d'agréger toutes les approches scientifiques, qu'elles viennent des sciences sociales ou des sciences naturelles et physiques, autour des relations entre sociétés humaines et environnement, pour faire simple.
D'accord. Mais du coup, c'est à partir du vivant, c'est ça ? Vous parlez des structures, c'est-à-dire, j'ai pas très très bien compris.
Ouais, la soutenabilité, ça renvoie à ce qu'un écosystème, on peut prendre le système Terre par exemple, est capable de supporter comme charge de gaz à effet de serre, comme charge de déchets, comme charge de résidus ou de prélèvements de la part des sociétés humaines en particulier.
D'accord. Donc aujourd'hui, j'imagine que c'est quelque chose d'émergent à cause justement de toute l'activité humaine qui est en train de bousiller la planète.
Voilà, on se rend compte qu'on est en train de dépasser un certain nombre de seuils écologiques qui mettent en danger le caractère habitable du système Terre, que ce soit au pôle Nord, au pôle Sud, dans la zone sahélienne, et même dans les pays tempérés comme ceux d'Europe, qui sont en train de se réchauffer très très vite, et où la biodiversité est en train de s'effondrer massivement. Ces questions-là doivent être traitées de manière assez prioritaire, en particulier par les scientifiques.
D'accord. Alors, l'Atécopole donc organise ce colloque, ce qui est un colloque inter-Atécopole. Donc, ce qui veut dire d'abord peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est l'Atécopole ? Qu'est-ce que c'est l'Atécopole ? Ouais.
Ouais. Atécopole, c'est l'abréviation de Atelier d'écologie politique. Et concrètement, c'est un collectif d'universitaires qui s'est créé en 2018. À Toulouse. Il se trouve que ça s'est créé au même moment où Greta Thunberg a commencé sa grève pour le climat, là, au tout début. C'est un hasard, hein. Mais voilà, ça s'est constitué à ce moment-là de la part d'universitaires toulousains et toulousaines qui disaient « Bon, la situation est grave et nous, les scientifiques, on a notre part de responsabilité là-dedans. Il faut qu'on questionne aussi ce qu'on a fait jusqu'à présent » et qu'on envisage de fonctionner différemment, parce que manifestement, ça n'apporte pas les effets escomptés. En 2018, ça faisait déjà presque 30 ans que le groupement international d'experts sur le climat sonnait l'alerte, disait « attention, attention, dérèglement climatique », mais en fait, ça ne produisait pas d'effets politiques massifs permettant de sortir de trajectoires justement insoutenables. Et donc, c'est là que l'Atécopole Toulouse s'est créée en disant, eh ben, il faut qu'on reconsidère assez radicalement la façon dont on travaille pour être un peu à la hauteur de la situation.
D'accord. Mais du coup, qu'est-ce que ça a mené en termes justement de méthodologie, enfin en tout cas de fonctionnement ? Parce que ce que j'ai l'impression, c'est que c'est un croisement en fait de plusieurs domaines scientifiques, ouais. Mais pas que. Il y a des sciences pures et dures, j'ai l'impression, il y a des sciences humaines, il y a aussi même des approches peut-être plus sensibles, plus poétiques,
ouais.
Ou voilà. Donc est-ce que vous pouvez, enfin pourquoi ?
Mais il y a, ouais, tout à fait ce que vous avez dit est très juste, c'est-à-dire que dans les premiers axes de travail qui ont été les nôtres à l'Atécopole à Toulouse, ça a été de dire, d'une part, il faut qu'on sorte chacun de notre petit domaine d'expertise, parce que vous savez que le savoir, scientifique se construit par une spécialisation à outrance. Quand vous arrivez en licence à la fac, c'est encore assez large, et après en master, vous commencez à vous spécialiser un peu plus. Et si vous faites un doctorat après, vous êtes sur, vous commencez à être une poignée d'experts et d'expertes sur une même question. Mais du coup, ça nous enferme chacun et chacune dans des domaines de savoir très précis, très fins, mais aussi très isolés les uns des autres. Donc, un de nos premiers changements de pratique, ça a été de dire, bon, maintenant, sur ces questions écologiques en particulier, il faut systématiquement qu'on mixe des sciences sociales et des sciences naturelles et physiques. On ne peut plus chacun être dans notre petite bulle. Il faut qu'on mélange et qu'on hybride systématiquement nos approches, nos travaux, nos regards, parce que sinon, on ne comprend pas ce qui se passe. Et chacun, on a une bonne petite compréhension. Tiens, moi, je suis spécialiste des bactéries. Je sais très bien comment les bactéries réagissent au fait que les océans absorbent du CO2, je dis n'importe quoi. Mais par contre, la perte de biodiversité ou le problème des engrais chimiques, eh ben, j'y comprends rien et c'est très loin de mon domaine d'expertise. Donc déjà, essayer d'acquérir par cette interdisciplinarité une vision un peu systémique, une vision globale du problème pour se donner les moyens de contribuer à le résoudre ou à l'atténuer.
Et il y a peut-être aussi un enjeu de vulgarisation aussi auprès de des personnes comme moi, par exemple, qui ne sont pas du tout des scientifiques.
Complètement.
Pour essayer d'appréhender peut-être les choses de façon un peu plus détaillée ou enfin plus profonde, quoi. Mais en même temps, j'imagine que c'est un enjeu aussi pour vous, quoi.
Tout à fait. Et ça, c'est un peu le deuxième axe qui a été le nôtre au cours de ces 6-7 années-là d'existence. Ça a été de nous porter à l'interface entre le monde de la science et la société. C'est-à-dire que un peu sortir de nos labos, sortir des campus universitaires et aller répondre à des sollicitations venant de collectivités locales, venant d'associations, venant d'entreprises, venant de mouvements sociaux, venant de la société civile en général. Et essayer, de justement, comme vous dites, de faire de la vulgarisation, de répondre à des demandes. On a des gens, par exemple, des gens de collectivités locales, que ce soit dans le Gers, dans le Tarn ou en Ariège ou ailleurs, qui nous disent, c'est bien gentil, mais les rapports du GIEC, ok, le résumé aux décideurs, on peut à peu près le lire, mais si on regarde le rapport complet, il fait 350 pages et c'est du discours scientifique ardu. Donc nous, chargés de missions territoriaux, comment on se saisit de ces travaux-là pour savoir ce qu'on doit faire quotidiennement, comment on doit faire évoluer nos pratiques, comment on doit planifier ça sur la durée. Et donc nous, on a essayé à la Técopole de faire ce travail-là un peu de traducteur-traductrice, d'intermédiaire entre l'état des connaissances scientifiques à l'échelle internationale et puis les besoins des gens sur le territoire de l'Occitanie et les domaines de compétences de différents acteurs sociaux. Je prends un exemple très simple, on a fait beaucoup de formations, on a fait beaucoup d'interventions en milieu professionnel. Je me souviens de formations qu'on a fait pour la DREAL, donc la Direction Régionale de l'Équipement, de l'Aménagement et du Logement, où on avait des commissaires enquêteurs, donc des gens qui doivent conduire des enquêtes publiques sur des projets d'aménagement. Généralement, c'est des anciens gendarmes à la retraite, ce genre de profil. Et il y en avait un bon tiers qui était climato-sceptique. Donc, on a déjà commencer par dire, écoutez, le fait que le dérèglement du climat qu'on constate aujourd'hui est lié aux activités humaines depuis au moins 150 ans, c'est plus une question en débat. C'est-à-dire qu'il y a eu un débat dans les années 80-90, la controverse, elle est réglée. Et maintenant, il y a une unanimité pour acter ça. Donc déjà poser des choses très simples qui font et qui sont évidentes dans le champ universitaire, mais qui n'ont pas encore complètement percolé, n'ont pas encore traversé toutes les sphères de la société, on va dire.
D'accord. L'objectif, là, c'est réparer le futur. C'est, l'objectif. C'est la thématique, plutôt, de votre colloque, du colloque qui a lieu actuellement. Est-ce que c'est ça, l'écologie politique, en fait ? Est-ce que c'est cette question-là ? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de très, très, très général, réparer le futur. Est-ce qu'on peut réparer le futur ? Et avec une liste d'ateliers, il y a plein de choses qui sont proposées autour de ça. Et je pense à cette... c'est pas très, très clair, je m'embrouille, c'est pas grave. Quels sont les enjeux du colloque d'aujourd'hui, là, justement, avec cette histoire de réparer le futur ?
Ouais. Réparer le futur, c'est un peu une boutade, on va dire, parce que on cherche à garder aussi une forme de bonne humeur et puis de dérision aussi dans ce qu'on fait. Mais effectivement, c'est par rapport à des Elon Musk ou Jeff Bezos qui nous parlent, qui disent bon bah la Terre est foutue, donc on va aller coloniser Mars. On se dit bah en fait on a peut-être un petit travail d'imaginaire à faire pour dire bah en fait dans l'ensemble de l'univers connu, le système Terre, c'est ce qui est de loin le plus habitable. Donc, on peut peut-être déjà faire un minimum d'efforts pour essayer de garder ce système Terre en bon état et avoir envie de continuer à y vivre. Donc, réparer le futur, voilà, ça, c'est un peu une référence à ça. C'est aussi le fait que moi, j'ai une fille de 4 ans à qui je dois expliquer que le mois de juin qu'elle vient de passer sera probablement un des mois de juin les plus frais du reste de sa vie. Et ça, moi, ça m'énerve, en fait. Et j'ai pas du tout envie de m'habituer à ça et de m'en accommoder. Donc, la responsabilité de nos actes aujourd'hui par rapport aux enfants existants et à venir, c'est quelque chose, je pense, qui nous anime et qui nous prend aux tripes. Et donc, l'écologie politique, c'est dire, se donner les moyens de aller par-delà cette séparation entre... nature et culture qui a structuré notre vision du monde depuis 300 ans. Et à cette tendance à considérer que la nature était un ensemble inerte, inanimé, de ressources, un stock de ressources dans lequel on pouvait prélever pour satisfaire toutes nos envies, même les plus futiles, à l'échelle massive d'une population de 8 milliards d'habitants. Et ben ça nous a conduit dans le mur aujourd'hui en termes climatiques, en termes de biodiversité, en termes de grands équilibres géochimiques à l'échelle de la planète. Et donc l'écologie politique, ça n'a rien à voir avec les partis, l'écologie politique telle qu'on la conçoit nous à la Técopole dans le colloque qui a lieu ces jours-ci et dans les 12 autres collectifs d'Atécopole de France qui se sont constitués au cours des dernières années. C'est pas du tout une démarche partisane au sens de Europe Écologie Les Verts, par exemple. C'est un domaine scientifique d'essayer de réconcilier la science avec le monde naturel et la compréhension qu'on en a aujourd'hui des écosystèmes, du vivant et les politiques, les mises en œuvre, la façon de gérer les sociétés. Parce que si on regarde juste les écosystèmes, on fait de l'écologie scientifique au sens littéral du terme, bah c'est très bien, mais on comprend pas les interactions avec les sociétés humaines. Mais si à l'inverse on fait que de la sociologie, et ben on comprend bien les sociétés humaines, mais par contre toutes leurs bases matérielles, énergétiques, qui leur permettent de fonctionner, on n'y comprend rien. Donc c'est vraiment faire ce lien entre ces trois pôles qui caractérisent l'écologie politique telle qu'on la pratique à la Técopole.
Ok. Et quels sont un peu les grands thèmes qui sont proposés là lors de ce colloque ? Est-ce qu'il y a une ligne vraiment directrice ou pas ? Est-ce que, c'est essayer d'embrasser un peu cette question-là le plus possible ? Parce que quand on regarde le programme, là, donc sur 3 jours, là, il y a énormément de choses, dans plein de domaines différents, avec plein de directions possibles, de pistes. Et voilà, donc du coup, est-ce que l'impression, est-ce que c'est une volonté de poser aussi quelque chose de très fort, de comme si on était sur un nouveau terrain et puis nécessité à le défricher. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça?
Dans l'appel à contribution qu'on avait fait il y a 6 mois, on avait 3 axes thématiques qui pouvaient être traités. Un axe sur l'économie et le travail et comment comprendre leurs répercussions sur leurs répercussions écologiques et comment repenser un peu ces systèmes-là. Un deuxième axe sur le renouvellement de la démocratie face à la montée du fascisme en Occident. Donc ça avec une actualité assez sévère, comme vous vous en doutez. Et un troisième axe sur les sciences et les techniques. Et justement, nous, scientifiques, comment est-ce qu'on se positionne par rapport aux technopromesses, c'est-à-dire, vous inquiétez pas, l'intelligence artificielle va résoudre tous nos problèmes, et cette espèce de fuite en avant de dire le progrès technique va apporter des solutions, alors que ce qu'on constate depuis 150 ans, c'est qu'il apporte aussi, il génère en permanence de nouveaux problèmes plus insolubles les uns que les autres. Donc, sortir de cette espèce d'hypnose et de fascination envers une technique et une technologie dont on mesure aujourd'hui qu'elle est de plus en plus énergivore, qu'elle est de plus en plus source d'aliénation parce que ça court-circuite nos processus démocratiques, quand on voit les manipulations qu'il peut y avoir sur les processus électoraux via certains réseaux sociaux, etc., etc. Donc il y a ces 3 axes-là, thématiques, et à partir de ça, on a reçu beaucoup, beaucoup de propositions, et comme à l'Athécopole, dans ce collectif d'universitaires qui rassemble aujourd'hui près de 300 universitaires sur la place toulousaine, on a un fonctionnement qui est très horizontal, très décentralisé. On a aussi essayé de faire une conférence sur ces 3 jours, hier, aujourd'hui, demain, à la Manufacture des Tabacs à Toulouse, qui soit un peu à notre image. Et donc, avec très peu de séances plénières où il y a un ponte ou une personne très importante qui cause devant 400 personnes, et plutôt essayer d'avoir plein d'ateliers en parallèle, de façon à ce que, eh ben là, on a 400 participants, il y en a probablement 200 qui sont, la moitié, qui sont des animateurs, animatrices d'ateliers sur une diversité de sujets, parce que voilà, le propre de l'écologie politique, c'est de valoriser la diversité, bien plus que de vouloir définir une ligne programmatique, une ligne de recherche à laquelle tout le monde devrait souscrire. Non, il y a une grande diversité de disciplines, de sujets et plein de séances en parallèle parce que ça fait la force et la résilience d'un système, c'est sa diversité.
D'accord. Et sur le fonctionnement, enfin sur la tenue des ateliers, du coup, comment ça fonctionne concrètement un atelier ? Est-ce que c'est un partage de connaissances ? Est-ce que c'est parce que c'est ouvert au public. Est-ce qu'il y a donc comment les gens peuvent s'emparer en fait de ces ateliers-là ?
Les ateliers, c'est souvent des ateliers qui sont assez participatifs et donc il y a beaucoup de méthodes qui viennent de l'éducation populaire ou des dispositifs participatifs type des fresques par exemple qui permettent que les gens qui viennent à la conférence ne sont pas forcément assis dans un amphi ou dans une grande salle à écouter passivement une ou plusieurs personnes qui vont raconter leur science, si je puis dire, mais essayer de mettre les gens beaucoup plus en action et de les faire participer à la réflexion. Souvent, ça passe par se diviser en petits groupes, phosphorer sur certaines questions, puis à nouveau se réunir pour mettre en commun ce qui aura été dit, parfois produire des choses qui peuvent être graphiques, qui peuvent prendre des formes visuelles et ou ludiques. Ça peut être faire de l'arpentage d'un livre ou d'une autre ressource, c'est-à-dire découper un livre en plusieurs morceaux, en confier la lecture à différentes personnes, et puis à la fin, chacun fait une petite synthèse de ce qu'il ou elle a lu, d'un point de vue subjectif. Et comme ça, à la fin de cet atelier d'une heure trente, tout le monde a un aperçu de ce qui, un aperçu assez précis de ce qu'il y avait dans le bouquin, sans avoir eu besoin de le lire en entier, chacun ou chacune. Donc c'est voilà, être dans des dynamiques assez collaboratives et dans laquelle on a une posture active collectivement.
D'accord. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à cette croyance. Enfin, cette foi absolument terrible, quoi, sur par rapport à la technologie. Comment l'écologie politique est perçue dans le reste de la communauté scientifique ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a la, enfin, dans ce que je comprends de ce que vous dites, enfin, je me dis que c'est aussi changer aussi de façon de penser, mais de procéder en fait aussi de
ouais, enfin, tout à voilà. fait.
Et que du coup, ça peut pas se faire. C'est, enfin, on est tellement emprunt en fait de tout ce qui s'est fait avant. C'est quelque chose de. Enfin, j'imagine que ça va pas être évident, quoi. Et du coup, je me demande comment vous êtes perçu. Enfin, comment c'est perçu dans, par l'ensemble de la communauté scientifique.
Ouais, ça, c'est pas vraiment à moi qu'il faut poser la question parce que je suis un peu trop dedans pour avoir ce regard extérieur. Néanmoins, ça dépend un peu des champs disciplinaires. Dans le domaine des sciences humaines et sociales, l'écologie politique est assez bien identifiée comme un domaine de réflexion sur les liens environnement et société, pour faire simple. Dans le domaine des sciences naturelles et physiques, il y a un peu cette idée que, ah ben non, si c'est politique, c'est pas de la science. Et moi, scientifique, je dis pas géologue ou moi, hydrologue, je suis simplement un producteur de données, de data, et ensuite c'est aux politiques et à la société de s'en saisir. Sauf que cette vision-là, qui a tendance encore à dominer dans le champ des sciences naturelles et sociales, elle a été invalidée par 40 voire 50 années de travail en sociologie des sciences et qui ont mis en évidence le fait que même quand on travaille dans un laboratoire, dans une salle blanche, sur de l'expérimentation, les questions qu'on choisit d'étudier, les choix que l'on fait en termes d'hypothèses, en termes de protocoles, contiennent toujours des valeurs, contiennent toujours des questions qui sont des questions qui peuvent être subjectives ou relatives à un certain nombre de valeurs propres à la chercheuse ou au chercheur concerné. Et que donc, ce mythe du chercheur comme « je suis dans ma bulle et je produis de la data qui ensuite sert à la collectivité » ne fonctionne pas. Et donc, l'écologie politique se saisit de ça pour dire « non, non, il faut comprendre que la façon dont la connaissance scientifique circule dans la société ne répond pas à ce schéma qui est extrêmement simpliste et naïf. Et un des points très forts de l'écologie politique, c'est cette question de la neutralité, et notamment de la neutralité des techniques. Et là, je renvoie aux travaux d'un Ivan Illich, par exemple, ou d'un Jacques Ellul, mais il y a toute une littérature là-dessus. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent, notamment aujourd'hui, par rapport à la technologie. Quand il y a une nouvelle appli qui sort, on entend souvent les gens dire « Oui, bon, c'est vrai que si on reste scotché à cette appli pendant 12 heures, ça va avoir des effets néfastes. Mais c'est comme pour tout, c'est ni bon ni mauvais, tout dépend l'usage qu'on en a. » L'écologie politique, depuis plus de 50 ans maintenant, s'est inscrit en faux par rapport à cette idée-là, en disant non, la technique n'est pas neutre. Les objets techniques, que ce soit une mitraillette ou une appli ou une yaourtière, sont conçus par des gens pour certains usages, pour autoriser certains usages et en empêcher d'autres. Ils sont conçus en fonction de certaines visions du monde préexistantes et ils permettent à certaines réalités d'exister. Quand on invente la tronçonneuse et que couper des arbres, c'est plus le faire à la main, à la hache, mais ça devient facile comme bonjour, eh bien, la déforestation apparaît à échelle massive. La tronçonneuse n'est pas un objet neutre. Mmh. La mitraillette qui permet de tirer une succession de coups sans avoir à recharger nous fait basculer aussi dans un autre monde. Et de la même façon, on sait très bien aujourd'hui, ça a été prouvé d'ailleurs par des scientifiques, je pense à David Chavalarias, le réseau social X, anciennement Twitter, il est conditionné par des algorithmes qui permettent de donner de la visibilité aux propos les plus conflictuels, les plus polémiques, les plus réactionnaires. Et ces algorithmes sont conçus pour invisibiliser les propos modérés, qui est celle de créer de la cohésion sociale et de la concorde. Et donc, typiquement, sur un réseau social comme ça, c'est pas « ouais, c'est ni bon ni mauvais, tout dépend de l'usage qu'on en a, est-ce que je reste pendant 12 heures dessus par jour ou pas ?» Non, c'est que la technique n'est pas neutre. Et donc, il faut s'armer intellectuellement, il faut des manuels d'autodéfense pour savoir comment fonctionner démocratiquement, harmonieusement, dans un monde où la technologie a tendance à envahir jusqu'à nos sphères les plus intimes aujourd'hui de la vie.
Ouais, ça me fait penser à ce discours qu'on entend aussi beaucoup aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle.
Tout à fait.
Oui. Oui. Il en est question aussi
dans le colloque,
est-ce qu'il y a peut-être...
L'IA fait partie des choses qui sont discutées maintenant assez systématiquement dans les conférences, parce que elles ouvrent tout un champ de possibles et en referment d'autres. Et donc, ça fait partie... il y a des ateliers qui portent sur, justement, les promesses liées à l'IA comparées à ce qu'elle produit effectivement, et en prenant en compte aussi son empreinte matérielle et énergétique, parce que ça, c'est quelque chose qui fait un peu exploser, l'Atécopole a aussi beaucoup, qui fait un peu exploser, les bilans carbone des laboratoires de recherche, mais pas que, des entreprises ou des gens et des structures qui utilisent l'IA. Dans les Atécopoles, ce qu'on a aussi beaucoup fait, c'est justement dresser le bilan carbone des laboratoires de recherche et voir combien ça pèse, comment réduire cette empreinte. On a commencé à le faire il y a quelques années lorsque l'IA était assez peu utilisée. Aujourd'hui, qu'on commence à utiliser l'IA massivement dans les différents domaines de recherche, l'empreinte carbone des labos explose, augmente au moins d'un tiers dans les dernières années. Parce qu'on se met à utiliser ces outils-là qui sont extrêmement consommateurs en énergie.
Très bien. Est-ce qu'il est possible de participer encore à des ateliers, de s'inscrire ou tout est complet ?
Alors, les inscriptions sont terminées parce qu'on avait besoin de savoir combien de personnes seraient là, etc. Néanmoins, la conférence reste ouverte au public. On a prévu une conférence qui s'adresse à des universitaires, mais pas que, aussi à des associatifs, à des entrepreneurs, à des gens de collectivités territoriales, etc. Et donc, tous les ateliers ou conférences qui ont lieu dans les amphithéâtres, dans les grandes salles, sont ouvertes. Donc, il est toujours possible de venir dans ces grandes salles pour suivre et prendre part aux échanges.
D'accord. Et pour voir le programme, donc, il faut aller sur votre site, c'est Atécopole...
Ouais, Atécopole au pluriel, oui. atécopoles2025.scienceconf.org. Mais la meilleure façon de le trouver, c'est sans doute de taper dans le moteur de recherche « Réparer le futur », conférence Toulouse 2025 » et vous allez tomber dessus.
Ok. Eh ben merci beaucoup et puis bonne continuation.
Avec grand plaisir. Merci à vous.
Merci.